Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs, donc c'est Amnesty International Évreux, pour sa deuxième émission du mois de novembre, puisqu'on est le... On est le combien, Edith? J'ai posé une colle.
Et moi, je me trompe pas. Allez.
Puis, tu peux
29.
Et tu peux répéter crois. Parce que j'avais oublié de mettre les micros correctement.
Alors, je crois qu'on est le 29.
C'est ça, on est le 29.
Ça donc, va, Didier, avec la technique aujourd'hui?
Oui, ça va.
On a des doutes.
Ça va. Donc, une heure pour parler des droits humains, comme ceux qui nous suivent depuis des années le savent. Nos combats pour les droits humains et toutes nos actions pour les droits humains. Pas mal de choses à vous dire ce soir. On va vous parler de la situation entre des réfugiés syriens en Turquie. C'est Clarlis qui va vous en parler. On va vous parler aussi d'Interpol. C'est Edith qui va vous en parler, etc.
Ouais, c'est moi,
etc. Et donc ce soir à l'antenne avec moi, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Clarlis.
Bonsoir.
Voilà. Donc, c'est moi qui vais commencer effectivement à vous parler de ce qu'on avait prévu ce soir.
Alors je pense que oui, t'as reçu pour, Didier, il a profité de l'absence de Françoise. Il a reçu les documents sur la lettre sur les droits des enfants.
C'est ça. Et donc, parce que vous êtes peut-être que vous avez déjà l'information, mais on va le mois prochain fêter le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant.
Et alors ?
Et donc, oui, attendez, parce qu'on me fait signe. Clarlis me fait des signes.
Bah, on a de la musique dans le casque. Tu nous as laissé quelque chose.
Fond de musique.
Voilà. Oui.
D'accord.
On t'entend.
Bon. Non. Ouais.
C'est revenu.
Bah, là, je sais pas. Là, je sais pas du tout. Hein, parce que. Ah oui, c'était ça. Voilà. Si, ça y est.
Ça y est,
compris.
Maintenant, il y a que
j'ai
du
compris.
Que... Ça y est, tu maîtrises maintenant.
Voilà. Excusez-moi, parce que là, j'ai eu plusieurs perturbations pour reprendre mes esprits en début d'émission.
C'est l'anniversaire de la déclaration.
C'est ça. Donc, on va fêter les 30 ans, effectivement, le mois prochain. Et dans cette lettre de la Commission des droits de l'enfant qu'on reçoit d'Amnesty International, j'ai remarqué ce petit éditorial qui m'a paru très très juste, qui s'appelle « Les enfants sont les premières victimes des conséquences du dérèglement climatique ». L'incapacité des gouvernements à faire face au changement climatique pourrait constituer la plus grande violation intergénérationnelle des droits humains de toute l'histoire, en particulier celle des droits énoncés dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont nous commémorons le 30e anniversaire. La déstabilisation de l'écosystème planétaire provoque une multitude de catastrophes naturelles à travers le monde, typhons, inondations, sécheresses, dont les enfants subissent les conséquences directes en matière d'intégrité physique et de santé. Selon l'UNICEF, les changements climatiques pourraient provoquer 250 000 décès supplémentaires chaque année chez les enfants. Ceux-ci sont particulièrement exposés aux répercussions liées au climat en raison de leur métabolisme spécifique, de leur physiologie ou de leurs besoins en termes de développement. En outre, il existe des risques pour leur santé mentale. Les enfants exposés à des événements traumatiques comme les catastrophes naturelles que le changement climatique aggrave peuvent souffrir de syndromes de stress post-traumatique. Les dérèglements climatiques ont aussi pour conséquence d'augmenter les risques de conflits armés dont on sait que les enfants en sont les premières victimes. Les gouvernements doivent écouter les jeunes et agir dès aujourd'hui pour enrayer les changements climatiques ou simplement parce que l'alternative est impensable, souligne Amnesty. Écouter les jeunes n'est pas une coquetterie que se permettraient les adultes de manière condescendante. C'est un droit des enfants énoncé dans la Convention internationale des droits de l'enfant et son article 12. C'est par eux que le réveil se fait. écouter les scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs dizaines d'années, mettre fin à l'émission de gaz à effet de serre d'ici 2030, comme le préconise le GIEC, prendre des mesures nécessaires pour limiter l'élévation de température moyenne à 1,5 degré, est un devoir urgent que les humains doivent aux générations futures. Les enfants nous ouvrent la voie de l'action. Les suivrons-nous ? Amnesty International se mobilise en soutenant les initiatives prises par les jeunes pour réveiller les consciences et provoquer les dirigeants à l'action. C'est urgent. Tous les droits énoncés dans la convention sont menacés. Voilà. Donc je pense que c'est un texte effectivement important de bien se rendre compte que cette mobilisation-là effectivement est primordiale et va dans le sens de ce qu'on vous a déjà dit hein, sur l'intervention d'Amnesty en termes de remise en cause des droits humains à travers le réchauffement climatique, et on va y revenir. Mais voilà, je voulais vous en parler. Et puis tout à l'heure, si on a encore le temps, à la fin de l'émission, je vous parlerai peut-être aussi d'une initiative, d'une plainte qui a été posée par un certain nombre de jeunes envers les États à l'heure actuelle.
Tout à fait, oui, voilà. On a entendu parler aussi, ça.
Mais je crois qu'après, il y avait Edith qui avait des choses à vous dire.
Alors moi, j'étais pas à l'émission de radio la dernière.
Moi non plus, hein.
Qu'est-ce qu'on a fait, Claire-Lise ? On a écouté sur Internet, Principe Actif, émission Amnesty, très très facile. Et donc j'ai vu, ou j'ai plutôt entendu, Sabine parler de la situation des femmes par rapport à l'avortement en Argentine. Et donc, effectivement, moi j'ai suivi un peu cette affaire parce que, actuellement, enfin même dimanche dernier, il y a eu des élections en Argentine. Alors durant la campagne, ce qu'on peut noter, c'est que l'avortement s'est invité dans les meetings et lors des débats télévisés au point de devenir l'un des thèmes de la campagne. Et ça, c'est un fait inédit dans l'histoire de la démocratie argentine. Alors pour quand même vous rappeler un peu, il y a une étude qui date de 2005 qui estime entre 370 000 et 520 000 le nombre d'avortements légaux ou illégaux ayant lieu chaque année dans ce pays de 45 millions d'habitants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le président sortant, Mauricio Macri, lui, il est contre. Alors, il s'est tourné pour élargir sa base vers l'électorat conservateur et vers les évangélistes, dont l'influence est grandissante dans ce pays d'Amérique latine. Il n'y a pas que ce pays, hein, je pense que
non.
Hein, au Brésil aussi.
Donc, en Afrique aussi.
Voilà, cette branche de la chrétienté apparue aux États-Unis au début du XXe siècle met l'accent sur l'importance de la religion dans les choix quotidiens et possède en Argentine une grande capacité de mobilisation à travers la radio et la télévision et grâce à leur implantation dans toutes les provinces. Et ce sont eux aussi qui se sont fait connaître lors du projet de loi en 2018 pour légaliser l'avortement qui a été rejeté par le Sénat. Donc ça, c'est sa position. Alors, au niveau de l'opposition, les autres qui se présentaient pour être président de l'Argentine, le candidat de la gauche unie, lui, il est sans détour 100% favorable. Et l'autre, le favori de l'opposition, Alberto Fernandez, qui est plutôt un péroniste, on va dire, lui, il a pris davantage de pincettes en s'affirmant favorable à sa dépénalisation pour éviter que les femmes et les médecins ne soient inquiétés par la justice et qu'il fallait tendre vers la légalisation. Alors, sa vice-présidente, Cristina Kirchner, elle, quand elle était sénatrice en 2018, elle a voté pour. Mais quand elle a été présidente de l'Argentine entre 2007 et 2015, elle avait alors refusé d'ouvrir le débat. Voilà où on en est. Alors attention, dimanche, élection. Donc dimanche dernier, parce que je sais qui est élu. Eh bien, élection présidentielle en Argentine, c'est Alberto Fernandez qui est élu au premier tour. Alors, maintenant, sa vice-présidente, c'est Cristina Kirchner. On va suivre ce qu'il va le faire. Est-ce qu'ils vont remettre l'avortement, la loi pour légaliser l'avortement au niveau de l'État ou pas ? La balle dans son camp. Voilà la suite sur l'Argentine. Et aussi, vous avez parlé du Maroc, avec cette journaliste qui avait été emprisonnée pour un avortement illégal. Eh bien, je pense que vous l'avez peut-être entendu dans les médias, elle a été libérée, enfin, elle a eu une grâce royale. Bon, c'est une bonne nouvelle qui n'efface pas l'injustice dont elle a été victime. Avec beaucoup de soulagement qu'on a appris sa libération, mais on peut noter que la grâce royale n'efface pas la grave injustice dont elle a été victime. Les déclarations de culpabilité rendues contre elle, son fiancé, les médecins, doivent être annulées et effacées de leur casier judiciaire. Et le cas d'Ajar Raïssouni montre qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour que les droits des femmes soient protégés au Maroc et que les autorités marocaines doivent en toute urgence dépénaliser l'avortement et abroger toutes les lois qui soumettent les femmes à une discrimination. Et Didier, je crois que tu avais aussi, toi, une info par rapport...
Oui, c'est une information par rapport à une femme au Salvador, dont on vous en a déjà parlé dans d'autres émissions, qui avait été condamnée pour avoir en fait pour avoir fait une fausse couche. Elle avait été condamnée pour homicide parce qu'elle avait au Salvador, effectivement, l'avortement était interdit, et même ça va même jusqu'au niveau de la fausse couche. Et donc elle avait été condamnée pour ça, et donc elle avait été libérée dans un premier temps. Donc on avait fêté effectivement sa libération. Elle s'appelle Evelyne Hernandez, mais on a appris récemment une information qui est un peu moins bonne, c'est qu'en fait elle est de nouveau poursuivie. Donc voilà cette information. Condamné pour une première fois à 30 ans de prison en 2017 pour homicide, alors qu'elle avait été victime d'une fausse couche, Evelyne Hernandez, 21 ans, avait été acquittée lors de son procès en appel le 19 août. Mais le 8 septembre, le procureur général a fait appel de son acquittement, rappelant qu'elle était accusée d'homicide et non d'avortement. En effet, au Salvador, l'avortement est passible de 2 à 8 ans de prison, mais dans les faits, toute partie du bébé est considérée par les juges comme un homicide aggravé, puni de 30 à 50 ans de réclusion. Cet appel est un autre exemple de la tendance discriminatoire des procureurs du Salvador. C'est épouvantable que malgré un verdict qui a confirmé l'innocence d'Evelyne, l'État continue de vouloir la poursuivre, a déclaré Amnesty International. Donc bien sûr, on continuera à suivre sa situation en espérant effectivement que cet appel ne sera pas suivi d'effet et que Evelyne pourra continuer effectivement à être libre.
Oui, c'est sûr qu'on va suivre au niveau du droit des femmes. Et là, je pense que c'est Clarisse qui va pouvoir continuer elle aussi sur l'actualité.
On a chamboulé le conducteur pendant que tu étais en train de parler.
C'est pas grave.
Voilà. On s'est dit qu'on allait te faire une surprise. Donc, je vais vous parler du délit de solidarité et un accompagnateur de haute montagne qui va se retrouver devant les juges. Donc, le jeudi 24 octobre, donc c'est tenu, on est le 29, donc voilà, c'est tenu l'audience en appel de Pierre Mambert, un accompagnateur de haute montagne condamné pour aide à entrée irrégulière d'un étranger, alors qu'il ne faisait qu'offrir du thé et des vêtements chauds à des demandeurs d'asile dans les Alpes. Ce geste humain qu'a fait Pierre Mambert envers 4 demandeurs d'asile arrivés en France par les Alpes depuis l'Italie devrait être applaudi. Pourtant, il risque 3 mois de prison avec sursis. Les actions de Pierre Mambert ne constituent pas une aide à l'entrée irrégulière d'un étranger, mais plutôt une aide humanitaire qui est légale au regard du droit français et international. La condamnation de Pierre Mambert montre comment les autorités françaises utilisent abusivement la législation destinée à lutter contre le trafic d'êtres humains pour sanctionner pénalement des citoyens qui offrent leur aide aux personnes en mouvement. Son audience en appel se déroule devant la cour d'appel de Grenoble. Donc elle s'est déroulée donc à 13h45 heure française et on attend le délibéré en fait parce qu'on n'a pas encore eu le jugement. Donc ce n'est pas le premier cas dans cette région et on se demande quand est-ce que le gouvernement français arrêtera de criminaliser la solidarité. Et nous appelons encore sur le site d'Amnesty à l'annulation de cette condamnation. Pour rappeler quand même que par rapport à la criminalisation de la solidarité, c'est une dérive française qui sévit depuis quelques années. Les personnes ou organisations qui défendent les droits des migrants ou réfugiés subissent de plus en plus de pression. Le phénomène est généralisé au sein de l'Union européenne, mais la France est particulièrement touchée. Il y a un mois, on vous disait même aussi qu'il y avait de l'intimidation, par exemple pour des amis d'RESF, quand ils accompagnent des jeunes mineurs devant la police, et la façon dont ils ont pu être reçus. tout ça, ça fait partie quand même de, d'une dérive qu'on sent qui devient de plus en plus forte, alors que les États devraient encourager et soutenir les initiatives de solidarité palliant au manquement des États, celles-ci sont aujourd'hui criminalisées. Les personnes apportent une aide aux migrants, aux réfugiés, cherchent juste à sauver des vies, agissent de manière pacifique et désintéressée. Ce sont donc des défenseurs des droits humains qui ont droit à une protection spécifique et non pas à un harcèlement systématique. Le droit international est par ailleurs très clair. Aider des personnes réfugiées et migrantes n'est pas une infraction et aucune poursuite pénale ne devrait avoir lieu. Mais depuis quelques années, nous faisons le constat inverse. En France, de Calais à la frontière avec l'Italie, ou encore en mer Méditerranée, les défenseurs des droits des migrants sont de plus en plus stigmatisés, attaqués, entravés dans leur action. Et donc on restera vigilant pour dénoncer quand il y a des atteintes à ces droits, quelles qu'elles soient ces atteintes et quel que soit le degré de ces atteintes. Et même à Évreux, s'il faut dénoncer, ben on dénoncera.
Tout à fait.
En parlant d'intimidation, je ne sais plus si on l'avait dit à la dernière émission, mais je ne suis pas certain. Tu étais avec nous, Clarlis, quand on avait l'entrevue auprès du préfet. Ouais. On a parlé de ces gens de RESF qui étaient intimidés par les forces de police quand elles accompagnaient des
c'est
jeunes mineurs.
C'est ce que je viens de dire, hein, mais tu as raison.
D'accord.
Mais deux fois, c'est mieux, parce que des fois, les gens, ils n'entendent pas la première fois.
Non, mais je suis désolé, j'étais pris par un petit problème technique, donc je n'ai pas tout écouté. Voilà, donc on va peut-être faire une première pause musicale.
Pause musicale.
Oui, voilà.
C'est la guerre, fais sa ronde. vas-tu devenir?
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux, pour la suite de notre heure d'émission sur les droits humains. Et je crois que Edith voulait vous parler d'Interpol.
Voilà, oui, ben Interpol, vous allez dire, mais c'est pas l'actualité ça. Eh ben si, c'est plutôt style dossier, quoi, quelque chose qui se passe, qui a été décortiqué dans la chronique d'Amnesty. On vous rappelle la chronique, le journal mensuel d'Amnesty, et qui m'a interpellée. Parle d'Interpol et interpellé. Oh, dis, c'est bien, hein. Et parce que je le connaissais pas du tout, quoi. Donc, on va s'imaginer qu'on arrive à Interpol, et on peut cliquer sur un petit onglet rouge marqué Wanted. Et là, on accède à une galerie de portraits. Des photos plus ou moins nettes, une majorité d'hommes. Et une grande liste d'accusations. Meurtre, pédophilie, escroquerie, trafic en tout genre, proxénétisme. Un tiers de ces notices rouges sont ainsi mises en ligne. Ce n'est pas Interpol qui les rédige, mais c'est l'un de ces 184 États membres. Depuis sa création en 1923, la mission d'Interpol est très claire. Relier les polices entre elles sans s'occuper de politique. C'est ce que stipule d'ailleurs l'article 3 de son statut. Toute activité ou intervention dans les questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial, lui est rigoureusement interdite. Pourtant, on s'est rendu compte que certains États utilisent ces notices rouges, non pour dénoncer des criminels, mais pour traquer leurs dissidents à travers le monde. Un dernier exemple, l'arrestation le 27 novembre 2018 en Thaïlande du footballeur Hakem Al-Haribi. Ce joueur, originaire du Bahreïn, rêver d'une lune de miel à Bangkok. Il y restera 2 mois en détention. En cause, une notice rouge équivalente d'une demande d'extradition déposée sur le site d'Interpol par le Bahreïn. Depuis 2014, ce jeune homme réfugié politique en Australie est poursuivi par la justice de l'Émirat qui l'a condamné à 10 ans de prison pour avoir endommagé un poste de police lors du printemps arabe. Grâce à une mobilisation internationale, Hakem Al-Haribi a été relâché en février dernier. C'est emblématique, l'histoire de ce joueur de foot montre à quel point les notices rouges délivrées par Interpol peuvent échapper à son contrôle, pervertir sa mission et mettre en danger des citoyens. Un autre exemple. Deux Turcs ont aussi fait l'objet en 2017 d'une notice rouge utilisée comme moyen de pression politique. Dokan Akhani, auteur d'une trilogie évoquant le génocide arménien, et Hamza Yalçın, un journaliste collaborateur d'un journal très critique envers le pouvoir turc. Tous les deux sont des hommes de lettres opposants au président Erdogan. Ils se sont réfugiés en Suède pour l'un et en Allemagne pour l'autre. Au cours de l'été 2017, ils se font arrêter par les autorités espagnoles sur la base des notices rouges. Et le temps d'examiner la requête d'extradition, Hamza va passer plus de 50 jours en détention provisoire. Le tollé médiatique autour de leur détention soulève une vague de questionnements sur le rôle joué par Interpol. Angela Merkel intervient pour fustiger l'organisation et parle de nombreux cas d'Allemands contre lesquels la Turquie a lancé des poursuites. Sigmar Gabriel, ministre des Affaires étrangères allemande, s'inquiète de cette dérive. Il dit « Ce serait une chose terrible si, même à l'autre bout de l'Europe, la Turquie réussissait à faire arrêter des gens qui élèvent la voix contre le président Erdogan. Bon, » Les deux pré-écrivains seront finalement libérés. Pour eux, l'histoire se termine bien. Mais qu'advient-il de ceux dont la presse ne parle pas? Ces personnes, fichés rouges, vivent dans la peur permanente d'une arrestation. Une peur qui pèse sur leur vie, limite leurs mouvements, leur rappelle sans cesse qu'à tout moment, ils peuvent être pris pour des criminels et traités comme tels. président du Congrès mondial des Ouïghours, défenseur des droits de l'homme, Dalkin Issa a passé 20 ans de sa vie à redouter une arrestation à chaque frontière et à se refuser de voyager dans toute une liste de pays. La Chine avait publié une notice rouge l'accusant de terrorisme. À Paris, où il est venu fin octobre 2018 pour le sommet des défenseurs des droits humains, il se souvient du tout début de cette trop longue histoire. Il nous raconte. C'est en 1999. Je devais me rendre à Washington pour une conférence. J'étais en Allemagne où j'avais trouvé refuge. Je suis allée au consulat américain faire ma demande de visa. 40 minutes après avoir donné tous mes documents, la sécurité m'interpelle et me met violemment à la porte. Et à l'extérieur, deux voitures de police allemandes m'attendent pour me conduire au poste. Et là-bas, ils m'expliquent que je suis fichée sur Interpol et me montrent ma notice rouge. Je suis abasourdie. Jamais je n'aurais pu penser que moi, simple citoyen, je pouvais me retrouver sur Interpol. Finalement, après plusieurs heures de vérification, les policiers allemands le relâchent. Ils me disent que l'Allemagne m'avait accordé l'asile et qu'ils reconnaissent mon statut de réfugié politique. Mais ils me mettent aussi en garde. Eh, vous risquez d'être souvent arrêté. En effet, les arrestations et les ennuis se multiplient. En 2005, il est arrêté à Genève, où il manifeste pour le Tibet libre devant l'ONU. En 2006, c'est l'entrée sur le territoire américain qui lui est interdite. En 2009, il est détenu pendant 4 jours en Corée du Sud et frôle l'extradition vers la Chine. En 2016, l'Inde lui refuse son visa. À en croire Interpol, il s'agit là de cas isolés. Il existe extrêmement peu d'affaires concernant les notices rouges dont il a été établi qu'elles les étaient contraires à l'article 3, nous affirme l'attaché de presse d'Interpol. Alors, c'est pas l'avis d'un député européen d'origine allemande, Bernd Fabricius. Il a dirigé une commission d'enquête et en mars 2017, il dressait un rapport accablant devant le Conseil de l'Europe et il demande à l'organisation des garanties plus strictes et davantage de contrôle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Après 2011, l'attentat du 11 septembre 2001, Interpol est devenu vraiment un lieu pour la lutte contre le terrorisme. Le monde est si dangereux, il est tellement facile pour les criminels de voyager qu'il faut pouvoir alerter les pays aussi rapidement que possible. Donc, entre 2001 et 2016, le nombre des notices rouges a été multiplié par 10 et rien qu'en 2016, 13 000 ont été émises. Mais combien concernent de vrais criminels et combien ciblent les dissidents? Des associations se sont intéressées à ces questions. À Stockholm, le Center for Freedom recense au quotidien les violations des droits de l'homme en Turquie, a publié un rapport indépendant en 2017 dont le titre est « Comment la Turquie abuse du système d'Interpol pour persécuter ses opposants à l'étranger ?» Donc, le président actuel dit que le gouvernement turc mélange des membres de Daesh à des cas politiques pour les intégrer dans la base Interpol. Ainsi, l'ombre d'Erdogan plane jusqu'en Europe. Pour Abdullah Bozur, le président de cette association, même si Interpol communique peu sur ses abus, elle est parfaitement consciente. Elle en est parfaitement consciente. Nous savons que la Turquie a ajouté tellement de notices depuis 2016 que ses requêtes ont été supprimées de la base de données et qu'elle s'est même vue retirer le droit d'en saisir de nouvelles. Ça, c'est une information qu'Interpol refuse de confirmer. Mais demander un meilleur contrôle d'Interpol pour éviter qu'elle ne soit instrumentalisée, c'est aussi le combat que mène une autre association, une ONG spécialisée dans la justice, Fair Trail. À Interpol, je crois que la technologie a été plus rapide que les droits de l'homme, résume Alex Milk, chargé de la communication. Et au fil de ses rapports et des communiqués, l'association évoque toujours les mêmes pays réputés abusés du système. La Turquie, la Russie, la Chine, l'Iran et les dictatures d'Asie centrale. Alors, qu'est-ce qui se passe quand même? Est-ce qu'Interpol s'est remis en cause? Eh bien oui, depuis 2017 et face aux critiques, l'organisation a mis en place une réforme à l'efficacité relative, comme le montre l'affaire du footballeur Hakem Al-Raïbi. Toute nouvelle notice qui arrive doit être validée par le secrétaire général avant d'être publiée. Une personne ne peut plus faire l'objet d'une notice rouge si elle est réfugiée politique. La commission de contrôle des fichiers peut être saisie par les personnes contestant le fichage. Néanmoins, elle ne réunit que 5 membres pour instruire tous les dossiers. Donc, la réponse est quand même limitée. Pour les cas les plus emblématiques et médiatisés, la réforme fonctionne. Notre président du Congrès mondial des Ouïghours s'est vu enlever sa notice rouge en mars 2018. Pourtant, lui aussi déplore. Je connais toujours des Ouïghours qui font l'objet d'une notice rouge. Je leur ai dit de contacter Interpol, mais c'est long. Moi, ça a mis 20 ans. Et en plus, j'ai été aidé par les médias et les ONG. Alors, il y a aussi un autre risque, c'est les diffusions. Alors, les diffusions, c'est un autre instrument de fichage envoyé librement par les policiers, par les polices des pays membres d'Interpol. Les diffusions demandent l'extradition comme une notice rouge, sauf qu'elles, à aucun moment, elles ne sont validées par l'organisation. Un journaliste russe, Galit Murat Damatavet, a appris récemment qu'il faisait l'objet d'une diffusion. Après avoir critiqué le régime en place au Daghestan, un mandat d'arrêt national est lancé contre lui en Russie. Il doit quitter son pays. Depuis longtemps, les autorités russes me menaçaient d'une notice rouge, raconte-t-il. Ils ont récupéré mon numéro allemand et m'appelaient pour me dire de rentrer. Que la justice serait clémente. Puis, très vite, le ton montait et ils me menaçaient. Pour Gaji Marat, il est donc évident qu'Interpol est devenu un outil de répression. J'étais en train de plaider pour obtenir l'asile en Allemagne quand on m'a informé d'une diffusion. Mon avocat m'a dit « À partir de maintenant, on peut venir te chercher partout et t'extrader vers la Russie. » Je n'ai pas pu dormir chez moi pendant des mois. Depuis, avec le soutien de Reporters sans frontières, Gaji Murat espère faire lever sa diffusion et l'Allemagne lui a fait savoir qu'elle ne donnerait pas suite. Donc voilà où on en est. Chaque État dispose donc d'une marge de manœuvre dans cette opération internationale de police, selon ses priorités, ses valeurs et ses relations. Donc la France nous répond que, tout en tant qu'elles n'ont pas été validées, les diffusions, aussi bien les notices par le ministère de la Justice, elles ne sont pas intégrées dans la banque de données de recherche nationale. Mais donc, on est toujours soucieux quand même, parce que si des dissidents ont réussi à échapper à l'extradition, on sait que pour des personnes qui ne sont pas médiatisées, cela peut devenir dramatique. Et la journaliste qui a fait cet article, Marine Durmerger, pour la chronique d'Amnesty, nous parle d'un Bulgare, un homme d'affaires turc qui a été bloqué en Bulgarie et qui a été livré à la Turquie et qui, depuis, on n'a pas de nouvelles de lui. Voilà les dangers des dérives d'Interpol.
Oui, c'est une réforme à efficacité relative. J'ai bien aimé le terme. Voilà, je vais m'en servir à mon boulot, moi.
Voilà, mais là, c'est quand même, la progression d'Internet, les médias et en plus l'humain au bout de la chaîne. Et c'est souvent lui qui trinque.
Non, c'est vrai.
Oui.
Oh, c'est étonnant.
Mais il y a des bonnes volontés quand même.
Je crois que Claire Lise.
On a l'ombre de Erdogan qui plane. Il planait sur Interpol. Il continue à planer là. Bon, donc je vais vous parler de ce qui se passe en Turquie.
Je pense que ça va se faire une entrée en matière.
Ouais,
Erdogan, voilà. C'est pas le président de la Turquie.
Mais oui. Donc il va avoir chaud aux oreilles là.
Bon.
Allez, c'est parti.
Vas-y.
Donc je vais vous parler de. Bon, ça c'est un article qui est paru effectivement sur le site d'Amnesty et qui dénonce. Le fait que la Turquie maquille en retour volontaire et sans danger les renvois forcés de réfugiés syriens. Donc c'est une pratique qui est illégale, mettant en danger des millions de civils. Donc la Turquie a passé les mois qui ont précédé son incursion militaire dans le nord-est de la Syrie à expulser des réfugiés vers ce pays déchiré par la guerre. Tout cela en prévision de la tentative de création d'une soi-disant zone de sécurité du côté syrien de la frontière. Donc on a vu, il y a eu une incursion turque quand même pendant 15 jours, là. Maintenant il y a un cessez-le-feu. Mais il y a effectivement quand même des choses très graves qui sont en train de se passer en Syrie et qui ont été initiées par la Turquie. Donc des réfugiés ont témoigné de mauvais traitements de la part de la police turque pour les contraindre à signer des documents. Ces documents attesteraient de leur volonté de retourner en Syrie. La Turquie les a donc contraints à retourner dans une zone de guerre, mettant gravement leur vie en danger. Et il s'agit de civils. Il faut reconnaître que la Turquie a le mérite d'accueillir plus de 3 600 000 femmes, hommes et enfants venus de Syrie depuis près de 8 ans. Cette générosité ne peut pourtant pas être utilisée pour justifier le fait qu'elle bafoue le droit national et international en expulsant des personnes vers une zone de conflit. Les autorités turques affirment qu'au total, 315 000 personnes sont retournées en Syrie de façon totalement volontaire. Faute de statistiques officielles, il est difficile de donner une estimation du nombre d'expulsions forcées. Mais en se basant sur les nombreux entretiens menés, nous estimons qu'au cours des derniers mois, plusieurs centaines de personnes ont probablement subi ce sort. Des renvois forcés, maquillés en retour volontaire. Et donc le gouvernement turc affirme que les personnes qui retournent en Syrie le font de façon volontaire. Mais les recherches d'Amnesty ont prouvé le contraire. Certains des réfugiés affirment qu'on les a frappés ou menacés de violence pour les contraindre à signer ces documents. D'autres se sont vus dire qu'ils signaient un formulaire d'enregistrement qui confirmait qu'ils avaient reçu une couverture dans le centre de rétention ou d'un formulaire dans lequel ils exprimaient leur souhait de rester en Turquie. John, un Syrien chrétien, a été expulsé après avoir été intercepté par les gardes-côtes turcs alors qu'il tentait de rejoindre la Grèce. Il a déclaré que des agents de service turcs de l'immigration l'avaient menacé. Si tu demandes un avocat, on te gardera pendant 6 ou 7 mois et on te fera du mal. Après son arrivée en Syrie, il dit avoir été détenu pendant une semaine à Idlib par Jenat al-Nusra, un groupe islamiste lié à Al-Qaïda. Toute interaction avec la police ou les services de l'immigration turque risque apparemment de conduire à un placement en détention ou à une expulsion. Par exemple, un entretien pour le renouvellement de papier ou un contrôle d'identité dans la rue peut être le prétexte d'un renvoi forcé. Voilà. Et par rapport à la Turquie, je voulais aussi parler de tout ce qui est en train de se passer et des preuves de crimes de guerre qui ont été accumulées.
Établies.
Tu voulais m'aider un peu, non? Vous voulez prendre la parole?
Si tu veux.
Allez, sors de ta technique, là, tu te prends la tête depuis tout à l'heure. Aide-moi un petit peu. Parce que ça fait plusieurs voix, c'est plus agréable.
Donc voilà ce que dit Amnesty. En Syrie, le sort des civils reste particulièrement inquiétant. Entre bombardements et répressions, rien ne leur est épargné. Entre le 12 et le 16 octobre, nous avons recueilli des témoignages de 17 personnes. Nous avons également analysé et vérifié des vidéos et examiné des rapports médicaux. Grâce à ces informations, nous pouvons prouver que la Turquie et les groupes syriens affiliés se sont livrés à des attaques menées sans discernement contre des zones d'habitation. Un travailleur kurde du Croissant-Rouge a témoigné sur l'une des plus abominables attaques. Il a extrait des corps des décombres après une frappe aérienne turque menée le 12 octobre vers 7 heures du matin, au cours de laquelle 2 bombes ont explosé près d'une école à Saïlé, où s'étaient réfugiés des civils déplacés par les combats. Tout s'est passé très vite. Au total, il y a eu 6 blessés et 4 tués, dont 2 enfants. Il était impossible de savoir si c'était des filles ou des garçons, car les corps étaient noirs. Ils ressemblaient à du charbon. Les 2 autres tués étaient des hommes âgés. Ils semblaient avoir plus de 50 ans. Franchement, je suis encore sous le choc. Cet homme ajoute que la frontière la plus proche se trouvait à plus d'1 kilomètre de distance et qu'il n'y avait pas de combattants ni d'objectifs militaires dans le voisinage au moment de l'attaque. Une autre secouriste kurde du Croissant-Rouge a tenté de secourir un garçon de 11 ans et une fillette de 8 ans qui ont été blessés par des tirs de mortier. Il a dit que Camille Sili était devenue, depuis le 10 octobre, la cible d'intenses attaques menées sans discernement. Le garçon était blessé à la poitrine, la blessure était horrible. Il avait une blessure ouverte et il ne pouvait plus respirer. On aurait dit qu'un éclat d'obus avait ouvert sa poitrine. Le garçon est mort des suites de ses blessures. Sa petite sœur a elle aussi été touchée par un éclat d'obus lors de cette attaque et les médecins ont dû lui amputer une jambe au-dessous du genou. Ce secouriste a précisé qu'il n'y avait pas de base ou de point de contrôle militaire dans les environs. Dans un autre cas, en date du 13 octobre 2019, une frappe aérienne turque visant un marché a touché un convoi civil dont faisaient partie plusieurs journalistes. D'après le Croissant Rouge kurde, 6 civils dont un journaliste ont été tués et 59 personnes ont été blessées. Un journaliste présent sur les lieux, qui a été témoin de cette attaque, a dit qu'il s'agissait d'un massacre absolu. Il a expliqué que le convoi était composé d'environ 400 véhicules civils et qu'aucun combattant n'était présent, seulement une poignée de gardiens armés protégeant le convoi. Il est impossible de justifier le bombardement sans discernement des zones civiles avec des armes imprécises telles que des mortiers. À quand l'ouverture d'enquête sur ces attaques illégales ? Voilà, une partie du communiqué d'Amnesty. Ouais. Ça me rappelle ce qu'on vous a passé la dernière fois, si vous réécoutez la dernière émission. On vous a passé un petit son qui réexpliquait tout ce que les obligations des États
le droit,
voilà. En termes de crimes de guerre et tout ce que les États
même
sont
pendant
censés
les conflits.
Faire. Voilà.
Et juste pour finir quand même sur cet article, qui était mon article, reprends la parole. Et donc, pour dire quand même qu'il y a une dégradation de la situation humanitaire qui est en train de devenir absolument épouvantable en Syrie. Ils avaient eu un petit peu de
un
répit,
petit appel, voilà,
un petit appel d'air, mais là, ça recommence. Et des personnes travaillant pour des organisations locales et internationales d'aide humanitaire nous ont informé que le retrait de la présence américaine dans le nord-est de la Syrie, l'offensive militaire turque et la participation du gouvernement syrien à ces tensions se sont combinés pour créer la pire des situations. Il est sérieusement à craindre que les 100 000 personnes déplacées ne reçoivent pas suffisamment de nourriture, d'eau potable et de fournitures médicales. Dans les camps pour personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, par exemple dans le camp d'Al-Holf, la population dépend entièrement de l'aide humanitaire. Un groupe de 14 organisations humanitaires internationales a mis en garde le 10 octobre 2010 contre le fait que ça devient totalement épouvantable, que cette offensive risquait de couper l'acheminement de l'aide aux populations concernées. Et de nombreuses personnes déplacées n'ont nulle part où aller et dorment dehors, dans des jardins ou dans la rue. Certaines d'entre elles ont trouvé refuge dans des écoles. Les personnes déplacées et installées à Derbassia représentent 90% de la population de cette ville. Il n'y a pas d'organisation humanitaire au sud de Derbassia. Nous n'avons vu aucun signe d'eux. Ils ont besoin donc de produits de première nécessité, d'eau, de nourriture, de vêtements, de couvertures, de matelas. Ils ont besoin d'un centre médical. L'hiver arrive. Ils ont besoin d'une solution en particulier pour les familles qui vivent dehors. Et les personnes qui souffrent déjà de maladies chroniques vont être dans une situation critique. Leur survie va dépendre de la durée de ces affrontements et de la capacité à continuer à mener les activités d'aide des organisations humanitaires. Donc la poursuite de l'offensive militaire turque a conduit des milliers de personnes déjà déplacées à quitter des lieux où elles avaient trouvé la sécurité. Les agissements de la Turquie risquent d'entraver l'acheminement d'une assistance d'une importance vitale et de l'aide médicale pour les personnes qui en ont besoin, ce qui va entraîner une véritable catastrophe humanitaire dans un pays déjà ravagé par la guerre. Erdogan, son ombre plane toujours.
Alors juste avant, oui. Je rajouterai un petit point. Vas-y. Erdogan, d'accord, mais les sous de l'Europe pour qu'on bloque aussi.
Ah bah oui.
Il y a peut-être se faire un petit coup aussi nous-mêmes.
Hein. Ah bah oui.
Voilà, juste.
Bah tous.
Mais Erdogan, je suis d'accord avec toi.
Et juste un chiffre aussi avant la pause musicale qu'on va vous passer, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les conflits, 90% des victimes maintenant sont des civils. 90%. Voilà. Quelques instants de musique.
Allez, vas-y, un petit coup de technique.
Musique.
retour sur l'antenne de Principe Actif, donc pour la dernière partie de son émission.
C'est une petite partie, internationale. Hein, parce qu'on a beaucoup causé. Hein.
Oui, c'est ça. Donc, on a quelques infos locales à vous donner, et puis...
Des bonnes nouvelles.
On a aussi quelques bonnes nouvelles, effectivement, parce qu'on vous a parlé de choses un peu dures avant la pause musicale, mais on a aussi quand même des bonnes nouvelles. Edith, je crois que tu en avais à nous donner.
Alors moi, j'ai des bonnes nouvelles un peu tempérées pour certaines. C'est par rapport à la peine de mort. C'est des petites victoires. Alors, au Burkina Faso, le Parlement a adopté, le 31 mai 2019, un nouveau code pénal qui abolit la peine de mort en droit. Donc là, c'est bien. Ouganda, le Parlement a adopté, le 21 août 2019, une loi qui abolit la peine de mort pour certains crimes, notamment dans le cadre de la loi antiterroriste. Si elle est approuvée par le président, la peine capitale sera réservée aux crimes les plus graves. Ouais, là, il y a encore des progrès à faire. Aux États-Unis, le New Hampshire, lui, a abrogé la peine de mort le 30 mai 2019, devenant ainsi le 21e État abolitionniste du pays. Là, c'est bien. Didier, t'en as quelque chose un peu ?
Oui, j'ai une bonne nouvelle. Enfin, c'est une situation où les choses rentrent dans l'ordre, si on peut dire. Ça se passe en Argentine. C'est une femme qui s'appelle Vanessa Gomez Cueva, qui avait été expulsée avec un bébé de 2 ans d'Argentine, alors qu'elle avait 2 autres enfants de 5 et 14 ans qui ont la nationalité argentine et qui, dont ces enfants étaient eux restés en Argentine. Donc ils avaient été séparés, en fait. Alors l'histoire, c'est qu'en fait, en 2014, cette femme a purgé une peine de prison pour un délit qu'elle avait commis. Et à la suite de quoi, comme elle n'était pas d'origine, comme elle n'était pas de nationalité argentine, le 2 février 2019, un tribunal l'a expulsé avec donc son dernier enfant en bas âge, de 2 ans.
C'est la double peine.
Hors d'Argentine, c'est ça, c'est la double peine. Alors le 1er septembre 2019, lors de la 31e session du Comité pour la protection des droits des travailleurs migrants, le directeur national des migrations a annoncé sa décision de lever, pour des raisons humanitaires, l'interdiction d'entrée sur le territoire argentin dont faisait l'objet Vanessa Gomez Cueva. Voilà. Donc c'est simplement en fait un rétablissement dans ses droits de cette femme qui avait été de façon assez inique expulsée en laissant ses 2 autres enfants sur place.
Eh bien, tant mieux. Alors.
Autre bonne nouvelle ?
Bah écoute,
non.
Pour l'instant, il y en a sûrement, mais elles sont pas à côté de moi, donc je peux pas les lire.
D'accord. Ok.
Voilà.
Donc, on a quelques infos locales à vous donner, effectivement, par rapport à ce que, là où on va être présent dans les semaines qui viennent. Alors, notre...
On peut peut-être parler aussi d'Anne Passeo, où on est allé au spectacle, vous en parliez il y a 15 jours.
On était...
Ouais, c'était très bien, j'espère que vous étiez avec nous.
On était au concert de Anne Passeo, effectivement, il n'y a pas longtemps, au théâtre. Le théâtre, très bel endroit qui a réouvert, hein, donc on vous conseille d'aller voir les spectacles du Tangram au théâtre, qu'on y soit présent ou pas, d'ailleurs ça n'empêche pas. C'est vraiment un lieu...
On avait eu plaisir à le retrouver.
Un lieu magnifique. Et on était donc présent au concert de Anne Passeo. Et si vous n'y êtes pas allé vous-même, eh bien vous avez eu tort, parce que c'était un très bon moment musical. Et donc on était présent aussi, on a eu des signatures sur le stand et des contacts. Ah on y sera à nouveau donc au théâtre le 14 et 15 novembre, deux soirs, 14 et 15 novembre prochain. Donc vous pouvez déjà regarder sur votre agenda. Sur une pièce de théâtre qui s'appelle Galilée et qui traite en fait à travers l'histoire de Galilée des problèmes de liberté d'expression, puisque pour ceux qui le connaissent, effectivement Galilée,
il a eu des soucis, il n'a pas pu dire
effectivement tout ce qu'il voulait par rapport aux découvertes qu'il avait
été un petit peu squeezé.
Voilà, donc ça parlera à travers son histoire du témoignage de la vie de Galilée. Ça parlera aussi de la liberté d'expression. C'est pour ça qu'on est présent. Donc, notez-le, les 14 et 15 novembre, n'hésitez pas à venir le spectacle et à venir nous voir au théâtre. Le spectacle est à 20h. Voilà. Et puis, également, on sera présent, mais là, c'est pas des événements publics, mais on vous en parle quand même, ce sont des événements réservés aux scolaires. Donc, on vous disait au début d'émission qu'on fête le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, et on sera présent avec tout un groupe dont la cause des enfants fait également partie, les Franca et puis je sais plus d'autres organisations.
Oui, il y a plein d'associations.
Les 20 et 21 novembre. Alors, le 20, ça se passe à l'abordage, dans l'ancienne salle de spectacle de l'abordage. Il y a la projection du film sur Kaboul Parvana, voilà, je cherchais le nom. Parvana, c'est un film soutenu par Amnesty, c'est un dessin animé. Et après un débat avec les enfants présents, c'est réservé aux scolaires sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Et le lendemain, ce sera pas le même film, ce sera des courts-métrages présentés par les centres éducatifs, les CEMEA de Normandie, et à l'issue desquels il y aura également un débat avec les jeunes sur leurs droits et la Convention des droits de l'enfant. Donc c'est le mercredi 20 et le jeudi 21. Mais ce ne sont pas des événements publics. Voilà. Il y a Edith qui est en train de me faire des signes, mais j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire.
Voilà,
je fais des signes
parce que c'est quelque chose que on a... Voilà. J'ai vu aussi par rapport à l'anniversaire, les 30 ans de la Déclaration des droits de l'enfant, il y a un projet Amnesty que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui sont dans l'enseignement, qui sont en primaire ou en collège. Donc si ça les intéresse de faire travailler leur classe par rapport aux droits de l'enfant, en faisant une petite lettre faite par des jeunes, et surtout une, ça s'appelle l'art posté. Alors pour ceux qui savent, c'est décorer une enveloppe. Et après, il y aura toutes les enveloppes qui seront remises au niveau du gouvernement, mais il y aura aussi sans doute un petit concours. Donc, on a toutes les infos, on peut proposer à des classes, à des groupes constitués de jeunes. Voilà, ils nous mettent un petit mail et puis on aimerait bien faire voilà, travailler les jeunes. L'éducation aux droits humains, c'est quand même le début de la belle histoire.
C'est ça. Tu nous rappelles l'adresse mail aussi où ils peuvent nous écrire, parce que j'ai dit envoyer un mail.
C'est automatique sur mon ordinateur.
Amnesty.evreux@gmail.com.
Voilà, Didier le dit beaucoup mieux que moi. Je le laisse.
Evreux@gmail.com. Et ça me fait penser, pendant qu'on parle d'adresse mail, tout à l'heure, Clarisse vous a parlé de l'action par rapport à la Turquie et du comportement de Monsieur Erdogan. Je vous rappelle qu'il y a aussi une action à faire en ligne sur le site d'Amnesty. Vous allez sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Destination du ministre turc, je crois, des Affaires étrangères, si j'ai bonne mémoire. Et vous tapez Turquie, hein, vous tomberez sur l'action assez facilement. Et ce sont des courriers à envoyer aux autorités turques pour lui demander d'arrêter de renvoyer des ressortissants syriens, des réfugiés syriens, de les renvoyer dans leur pays à partir de la Turquie. Donc n'hésitez pas à joindre aussi votre voix, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses.
Et là, on n'est pas obligé de faire de l'art posté pour la Turquie.
Non, l'art posté, c'est pour les enfants. Non. Et moi aussi, je voulais...
Il y a un courrier tout fait qu'on peut reprendre ou adapter, il n'y a pas de souci.
Je voulais parler aussi d'une action donc pour un Égyptien, Rami Saat, et je sais qu'elle est aussi sur le site d'Amnesty. Donc, il faut absolument lui écrire rapidement, parce que pour l'instant, il est emprisonné. C'est renouvelé 15 jours par 15 jours et savoir s'il va être accusé, Amnesty le considère prisonnier d'opinion. C'est en décembre. Oh, je vois la minute qui s'accumule. Allez, au boulot tout le monde.
Et puis on se retrouve sur l'antenne de... Oui, comme dit vous, Didit, effectivement, au boulot tout le monde. Non, mais c'est important hein, de faire les actions parce que c'est comme ça que les choses bougent.
Il a besoin, oui, il a besoin.
Donc voilà, vous tapez Égypte et puis Turquie sur le site d'Amnesty et vous trouverez les actions sans problème. Donc, prochaine émission, c'est quand la prochaine émission?
Dans 15 jours.
Oui, c'est quand, dans 15 jours?
Eh ben, c'est au mois de novembre.
Moi, j'avais noté.
C'est le mardi. Alors, dis-le,
c'est le mardi 12 novembre, 19h-20h, sur l'antenne de Principe Actif. Et vous avez les podcasts sur principeactif.net.
Et alors, un petit quiz. Les belles musiques qu'on vous a passées, qui peut dire les titres? Parce qu'on a oublié de vous les donner.
Oui.
Allez, on lance ça pour la prochaine émission.
Si tu veux, d'accord. Retrouvez-nous les titres. Voilà, bonne soirée à tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.